Même audio. Vous ne l'avez pas vu ? Vous pouvez l'entendre.
quand vous repartirez de Charleville-Mézières, et croyez-moi, le plus tôt sera le mieux. Vous devrez prendre la direction de la frontière, la direction de Charleroi, de la Belgique et de tous ces Belges. Vous allez franchir une boucle de la Meuse. Et à la sortie du pont, qui est situé rue du Pont, juste après le pont, à droite, le premier café s'appelle chez Paul. C'est un peu comme à Lourdes. Quand vous franchissez le gave de Pau, le premier bistrot à droite s'appelle chez Chantal.
D'être présent bien qu'exilé, encore que loin en aller. Oh triste, triste était mon âme à cause d'une femme.
Bon, alors, évidemment, pour atteindre de tels sommets d'émotion, de tels sommets de sensibilité, il vaut mieux être bien équipé. Dieu merci, René Daumal a écrit un livre intitulé « Le Mont Analogue » qui est un traité d'alpinisme. Il est à noter que René Daumal est né à Charleville-Mézières. Mais que se passe-t-il à Charleville-Mézières. Avant-propos. Ces observations sont celles d'un débutant. Comme elles sont toutes fraîches et qu'elles concernent les premières difficultés que rencontre un débutant, elles seront peut-être plus utiles à celui-ci, pendant ses premières courses, que les traités écrits par les maîtres, qui sont sans aucun doute plus méthodiques et plus complets, mais qui ne sont intelligibles qu'après si peu que ce soit d'expérience préparatoire. Toute l'ambition de ces quelques notes est d'aider le débutant à acquérir un peu plus vite cette expérience préparatoire. Définition. L'alpinisme est l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus grande prudence. On appelle ici art l'accomplissement d'un savoir dans une action. On ne peut pas toujours rester sur les sommets, il faut redescendre. À quoi bon alors ? Eh bien voici, le haut connaît le bas ne connaît pas le haut. En montant, note bien toutes les difficultés de ton chemin. Tant que tu montes, tu peux les voir. À la descente, tu ne les verras plus, mais tu sauras qu'elles sont là si tu les as bien observées. Il y a un art de se diriger dans les basses régions par le souvenir de ce qu'on a vu lorsqu'on était plus haut. Quand on ne peut plus voir, on peut du moins encore savoir. Je l'interrogeais, mais qu'est-ce donc que cet alpinisme analogique ? C'est l'art. Mais qu'est-ce qu'un art ? C'est la valeur du danger. Mais qu'est-ce que le danger ? Qu'est-ce que la prudence ? Qu'est-ce que la montagne ? Tiens l'œil fixé sur la voie du sommet. Mais n'oublie pas de regarder à tes pieds. Le dernier pas dépend du premier. Ne te crois pas arrivé parce que tu vois la cime. Veille à tes pieds, assure ton pas prochain, mais que cela ne te distrait pas du but le plus haut. Le premier pas dépend du dernier. Lorsque tu vas à l'aventure, laisse quelques traces de ton passage qui te guidera au retour. Une pierre posée sur une autre, des herbes couchées d'un coup de bâton. Mais si tu arrives à un endroit infranchissable ou dangereux, pense que la trace que tu as laissée pourrait égarer ceux qui viendraient à te suivre. Retourne donc sur tes pas et efface la trace de ton passage. Cela s'adresse à quiconque veut laisser dans ce monde des traces de son passage. Et même sans le vouloir, on laisse toujours des traces. Réponds de tes traces devant tes semblables. Ne t'arrête jamais sur une pente de terrain croulant. Même si tu crois tes pieds bien affermis, pendant que tu prends souffle en regardant le ciel, la terre peu à peu se tasse sous ton pied. Le gravier insensiblement s'éboule et tu pars soudain comme un navire qu'on lance. La montagne guette toujours l'occasion de te faire un croque-en-jambe. Si, ayant trois fois descendu puis remonté par des couloirs qui se terminaient par des à-pics qu'on ne voit qu'au dernier moment, tes jambes se mettent à trembler du genou à la cheville et tes dents à se serrer, gagne d'abord quelques petites plateformes où tu puisses t'arrêter en sûreté et rappelle à ta mémoire tout ce que tu sais d'injures et lance-les à la montagne et crache sur la montagne. Enfin, insulte-la de toutes les façons possibles. Bois une gorgée, mange une bouchée et remets-toi à grimper tranquillement, lentement, comme si tu avais la vie entière pour te tirer de ce mauvais pas. Le soir, avant de t'endormir, lorsque cela te reviendra, tu verras alors que c'était une comédie. Ce n'était pas à la montagne que tu parlais, ce n'est pas la montagne que tu as vaincue. La montagne n'est que roc ou glace, sans oreilles et sans cœur. Mais cette comédie t'a peut-être sauvé la vie. Souvent d'ailleurs, au moment difficile, tu te surprendras à parler à la montagne, tantôt la flattant, tantôt l'insultant, tantôt promettant, tantôt menaçant. Et il te semblera que la montagne répond si tu lui as parlé comme il fallait, en s'adoucissant, en se soumettant. Ne te méprise pas pour cela. N'aie pas honte de te conduire comme ces hommes que nos savants appellent les primitifs et les animistes. Sache seulement, lorsque tu te rappelles ensuite ces moments-là, que ton dialogue avec la nature n'était que l'image hors de toi d'un dialogue qui se faisait au-dedans. Les chaussures. Ce n'est pas comme les pieds. On n'est pas né avec. On peut donc les choisir. Laisse-toi guider pour ce choix par les gens expérimentés, d'abord, puis par ta propre expérience. Très vite, tu seras si bien accoutumé à tes souliers que chaque clou te sera comme un doigt, capable de tâter le roc et de s'y agripper. Ils deviendront un instrument sensible et sûr, comme une partie de toi-même. Et pourtant, tu n'es pas né avec. Et tu les jetteras sans cesser pour cela d'être ce que tu es. Ta vie dépend un peu de tes souliers. Soigne-les comme il faut, mais à cela, un quart d'heure chaque jour suffira, car ta vie dépend encore de plusieurs autres choses. Un compagnon beaucoup plus expérimenté que moi me dit « Quand les pieds ne veulent plus vous porter, on marche avec sa tête. » Et c'est vrai. Ce n'est peut-être pas dans l'ordre naturel des choses, mais ne vaut-il pas mieux marcher avec la tête que penser avec les pieds, comme il arrive souvent. Si tu fais une glissade, une chute sans gravité, n'est pas un instant d'interruption, mais déjà, même en te relevant, reprends la cadence de ta marche. Note bien dans ta mémoire les circonstances de ta chute, mais ne permets pas à ton corps d'en remâcher le souvenir. Le corps cherche toujours à se rendre intéressant par ses tremblements, ses essoufflements, ses palpitations, ses grelottements, ses sueurs, ses crampes. Mais il est très sensible au mépris et à l'indifférence que lui témoigne son maître. S'il sent que celui-ci n'est pas dupe de ses jérémiades, s'il comprend qu'il n'y a rien à faire pour l'apitoyer, alors il reprend sa place et accomplit docilement sa tâche. Merci. Cette idée de parler de Charleville, c'était aussi un prétexte pour parler de Patti Smith Smith. Elle a écrit un livre, je vous le donne en mille, qui s'intitule « Charleville ». Mais que se passe-t-il à Charleville-Mézières ?
Sur Bowery Avenue,
J'ai trouvé un imperméable informe en soie caoutchoutée, vert émeraude. Un chemisier Dior en soie à pied de poule, un pantalon marron et un gilet de cachemire beige. Une garde-robe complète pour $30 en comptant en plus un peu de lavage et un peu de raccommodage. Dans ma valise en tissu écossais, j'ai ajouté un ruban à la Baudelaire, un carnet de notes et les perles de verre du Harar. Robert y a déposé la carte postale d'une petite statue de Jeanne d'Arc. Sam m'a offert une croix copte tressée venant d'Éthiopie. Et mon amie Judy Lynn a mis une pellicule dans son minuscule appareil photo demi-format et l'a glissée dans ma poche. Ainsi parée, j'étais prête pour mon voyage. À Paris, c'était le mois d'octobre. Mon impossible imperméable ne me protégeait pas suffisamment du crachin glacé de l'automne. J'ai refait une partie de l'itinéraire que nous avions suivi avec ma sœur durant l'été 1969. Mais sans sa présence lumineuse, le quai Voltaire, la coupole et les rues enchanteresses avec leur café paraissaient bien triste. Comme nous l'avions fait à l'époque, j'arpentais de long en large le boulevard Raspail. Et j'ai retrouvé la petite rue où nous avions longtemps séjourné au 9 de la rue Campagne Première. Je suis resté là un moment sous la pluie silencieuse. Ce qui m'avait attiré dans cette rue en 1969, c'est que beaucoup d'artistes y avaient vécu. Verlaine et Rimbaud, Duchamp et Man Ray. C'est là que Yves Klein avait imaginé son célèbre bleu. C'est là aussi que Jean-Luc Godard avait tourné des scènes mythiques d'À bout de souffle. Je continuais mon chemin jusqu'au cimetière du Montparnasse pour aller saluer Baudelaire. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me a head on the humming bed while the limousine waited in the street. Those were the reason, and that was New York. We were running for the money and the flesh. That was called love. For the worker in song, probably still is for those who left. Then you got away, didn't you say? You were just throwing it all on the ground. Yes, you got away, never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you, and all of that jiving along. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred unsmooth men, but for me you'd make an exception.
then you clench your fist for the one like us were oppressed by the beauty. Then you fix yourself, you said, well, never mind, we are ugly but we have the music. Then you got away, didn't you, baby? You just turned your back to the crowd. Yes, you got away, never heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of that jive in a world, I don't mean to suggest that I loved you the best. I can keep track on fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, my little darling. I don't even think of you that often.
J'arrivais à Charleville au crépuscule. J'ai demandé qu'on m'indique un hôtel, mais je n'obtins qu'une vague direction. Je me sentis un peu mal à l'aise lorsque je me retrouvais seul, marchant, ma petite valise à la main, sans âme qui vive alentour, mais comme par magie, j'ai fini par tomber sur un hôtel. J'entrai et vis qu'il était illuminé. Deux femmes pliaient du linge. Ma présence parut les surprendre et les inquiéter. Elles ne parlaient pas anglais. Mon français est très mauvais. Mais bientôt, après quelques instants de gêne, on me conduisit jusqu'à une petite chambre à l'étage. Tout, y compris le baldaquin du lit, tout était recouvert de chintz fleuri. J'étais affamé. On me servit une soupe consistante avec du pain de campagne. Mais une fois seul, dans le silence de ma chambre, je me suis aperçu que je ne parvenais pas à écrire. Je me suis endormi. Je me suis réveillé tôt le matin avec café, crème et croissant, pleine de bonnes résolutions. J'ai enfilé mon imperméable et je suis descendu dans les rues de Charleville. À ma grande consternation, le musée Rimbaud était fermé. Dans une atmosphère silencieuse, j'ai parcouru les rues inconnues et j'ai trouvé miraculeusement le chemin du cimetière. Il y avait là un potager plein d'énormes choux à la forme parfaite, et derrière, juste derrière, la tombe de Rimbaud. Je restais pendant un long moment à regarder le monument en pierre et les mots « Priez pour lui ». Ils étaient gravés au-dessus de son nom. J'ai fait une brève prière et j'ai enterré les perles de Harar en verre bleu. Puisqu'il n'avait pas réussi à retourner au Harar, j'avais le sentiment que je devais en apporter un petit morceau jusqu'à lui. J'ai pris une photographie et j'ai fait mes adieux. Flo, est-ce que je peux avoir plus de lumière là-dessus? Merci Flo. Je continue. Je suis retourné au musée. Je me suis assise sur les marches, un peu abattue. C'est alors qu'un petit miracle s'est produit. Un vieil homme, peut-être le gardien, eut pitié de moi et ouvrit le musée. Tandis qu'il vaquait à ses tâches, il me permit de rester un moment auprès des modestes effets de Rimbaud, son livre de géographie, sa valise, sa tasse, ses couverts, son kilim et son foulard. C'est le foulard qui m'a ému le plus, car on voyait entre les plis de la soie rayée les endroits qu'il avait recousus. Je promis au vieil homme que je reviendrais dès le lendemain matin pour payer mon ticket d'entrée. Comme j'avais faim, j'ai regagné l'hôtel, j'ai pris un repas simple, fait de ragoût, de vin et de pain. Je suis monté dans ma chambre. Je n'ai pas pu supporter l'idée d'y passer la soirée toute seule. C'est un pays têtu de frontières, les bras repliés sur ses forteresses. C'est un pays taillé pour l'hiver, son pelage est crépu et sa terre est épaisse. Cousin éloigné m'a écrit, insolent, beau et sale. Mon cousin éloigné m'a écrit, insolent, beau et sale. C'est un pays lourd de labour, les chevaux de trait s'écroulent dans les maïs. C'est un pays sourd de tambour, cochon de lait en pain d'épices. Mon cousin éloigné m'a écrit, trafic à mort en Éthiopie. Le monde entier est au carême, le reste du monde a mauvaise haleine. C'est un pays bouclé de serrures, tatoué par un fleuve, encrouté, cubéni. C'est un pays repu de friture, qu'il vente ou qu'il neige, le bourgeois s'y ennuie. Mon cousin éloigné m'a écrit, insolent, beau et sale. Ça commençait bien et puis c'est fini. Gangrène, Marseille, hôpital. La 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 la. Il fait bon, hein? Je suis complètement perdu.
Voilà. Ça y est.
C'est pas celui-là.
Ça, c'est comme les jongleurs. On ne les applaudit que quand ils font tomber un truc. Je me suis lavé. Je me suis changé. J'ai emporté mon imperméable, je me suis aventuré dans la nuit de Charleville. Il faisait très sombre et j'ai débouché sur le quai Rimbaud, large et vide. Je commençais à avoir un peu peur lorsque soudain j'ai vu au loin la faible lumière d'une enseigne au néon. Café Rimbaud. Je m'arrêtais pour prendre ma respiration, incapable de croire en ma bonne fortune. J'avançais lentement, craignant qu'il ne disparaisse, tel un mirage dans le désert. La devanture était en stuc blanc avec une petite fenêtre. Il n'y avait personne alentour. Je suis entré, timidement. Le lieu était faiblement éclairé et peuplé surtout de garçons. Des types à la mine farouche, penchés sur un jukebox. Quelques photos délavées d'Arthur étaient punaisées sur les murs. J'ai eu l'impression d'être en territoire connu. Et je retrouvais un peu de la confiance que j'avais perdue dans ma solitude. J'ai commandé un pernod avec de l'eau. Pour moi, c'est la boisson la plus proche de l'absinthe. Et quelques types m'ont jeté un regard et ont mis quelques disques, un mélange insensé de Charles Aznavour, Hank Williams et Cat Stevens. D'autres jeunes sont arrivés. Deux garçons et une fille. Nous conversâmes par bribes d'anglais, mots d'argot et haussements d'épaule. Je leur expliquais que je faisais des recherches pour un livre sur Rimbaud. Je ne leur ai pas dit que je ne parvenais pas à écrire. Je me suis dirigé vers le jukebox. C'est alors que j'ai remarqué un garçon qui était seul dans un coin et me regardait sans rien dire. Au bout d'un moment, j'ai pris congé. Je suis remonté en haut de la rue sinueuse pour revoir la petite enseigne au néon. Le garçon qui n'avait pas parlé me suivit. Il m'agrippa le bras et me fit signe de le suivre. Nous traversâmes des champs interminables. Il faisait froid. Je m'aperçus que j'avais oublié mon imperméable. Nous sommes arrivés à une ferme abandonnée. Il a allumé une lampe à huile et il a sorti un petit coffre fermé par une espèce de corde de chanvre. Il l'a ouvert avec respect. Étrangement, bien que curieuse de découvrir son contenu, je gardais le regard rivé sur lui. Il était d'une beauté rude et il semblait émaner de lui une aura très personnelle. Il fouilla à l'intérieur du coffret. Il en sortit un mouchoir. Il était très ancien et très doux. On aurait dit qu'il avait été découpé dans l'étoffe d'une robe victorienne. Les bords étaient brodés ainsi que dans un coin la lettre V. Il l'a déposé dans ma main. Il a paru surpris, mais il n'a rien dit. Il a posé la tête sur mes genoux. J'ai caressé ses cheveux. Je l'ai regardé dormir à la lumière tremblante de la lampe à huile. Oisive jeunesse, à tout asservi par délicatesse, j'ai perdu ma vie. À que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, je me suis dit laisse et qu'on ne te voie. Malgré les promesses de plus haute joie, que rien ne t'arrête, auguste retraite. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la prairie à l'oubli livrée grandit et fleurit, dansant ses divrets au bourdon farouche de cent sales mouches. Oh, oh. Ah. Ami le veuvage de la si pauvre âme qui n'a que l'image de la Notre-Dame, est-ce que l'on prie la Vierge Marie, oisive jeunesse, à tout asservie par délicatesse? J'ai perdu ma vie, à que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Ce livre-là, il s'appelle « Dévotion, comme par hasard ». Je crois que je me trompe encore. Avant dévotion, j'aimerais bien vous interpréter un texte de Madame Patti Smith, qu'elle a dédié à son amant Sam Shepard Shepard. Je suis un méchant garçon. Je ne fais pas comme il faut. Maman, retiens-moi d'un baiser. Dis-moi d'être bon. Quand j'étais très, très méchant, tu me poussais dans un trou. Tu me coupais tous les doigts. Tu les déposais dans un bol à doigts. Mère m'a tué, mon père est humilié, ma petite sœur Almali pleurait sous l'amandier. Oh, j'ai aimé cette voiture, et que je suis taciturne dans la vieille Ford à papa, je me sens tellement mieux. Je suis si méchant que j'ai pillé tous les chromes de tous les hommes pour les revendre à leurs femmes et les voler encore. Tu sais, là d'où je viens, j'avais mes propres enjoliveurs et je roulais pour de très belles femmes et je roulais souvent bien trop loin. Je suis allé à Chicago, à Kalamazoo, et puis j'ai ripé vers Nashville. J'ai cavalé dans Tolkoumé, j'ai galopé vers Selenas, j'ai couru les mers et la population grondait, me montrait du doigt, me traitait de tout. J'étais si mauvais qu'ils rassemblaient leurs filles et je sais ce qu'ils leur disaient. Garde-toi de lui, ma chérie. Ce garçon est mauvais. Il a flashé sur ton butin. Il les a bien accrochés. Tiens-toi loin de sa quatre voies. Il a fait fausse route. Il est si mauvais. Ouais, j'étais si mauvais. Ma mère m'a tué. Mon père est humilié. Ma petite sœur Almali pleurait sous l'amandier. Elle pleurait pour moi et moi je pleurais sur mon stock car des Fender chaudes comme des anges. Je me suis craché dans les arbres, j'ai incendié mes entrailles, j'ai squatté des décharges, j'ai fracturé des caisses. Et puis j'ai filé vers le canyon, jamais bien loin de la mécanique auto, des ferrailleurs, des grottes que l'on pille, des meurtriers graisseurs. J'ai adoré ces hommes, maman, ils m'ont haï, ils m'ont hurlé, fils à sa maman, lâche-nous. Et puis ils m'ont menacé, maman, maman. De lundi minuit à mardi 2h, ivre de tequila, je pense à toi maman, je conduis ma voiture, mon stock car en flamme, démolir, c'est mon art. Et j'ai une photo de toi maman, tout contre mon cœur, je roule vitre close par 90 degrés, Fahrenheit. Et la foule hurlait, on te déteste, tu es un non-sens, tu es un vrai plongeur, poulet, pilote, un non-sens. Je n'entends rien, je ne vois rien. Brûler les ailes de l'ange, incendier les entrailles, un rabord de vitesse et de fièvre. Et maman, j'ai joui la foule à mes pieds. Enflammé, j'ai roulé dans la fange. Ils m'ont achevé au démonte-pneus. Ils m'ont shooté avec cette merde. Je m'en suis jamais relevé. Et la foule hurlait. Non, non, pas de sursis pour lui. Ce garçon est mauvais. Il est tellement mauvais que sa mère l'a poussé dans un trou, lui a coupé tous les doigts, les a déposés dans un bol à doigts. Ma mère m'a tué, mon père est humilié, ma petite sœur Almali pleurait sous la mendier. Merci. Ce texte assez valable a été mis en musique par Pascal Maupeu. D'où la dévotion. Perru arrière. Non, mais c'est un cadeau atroce. Je m'en rends compte en écrivant. Je peine à inscrire les mots sur le papier et pourtant, je sens que derrière eux, quelque chose d'autre se trame. J'ai suivi une ligne mentale et j'arrive à une forêt de sapins, un étang, une petite cabane en bois. C'était le début de ce quelque chose d'autre. Mais sur le coup, je l'ignorais. Un croquis d'hiver, juste une route qui s'éloigne. Un peignoir bleu sert de rideau tendu sur une fenêtre à travers laquelle personne ne regardera plus. Il y a du sang partout, privé de sa couleur, un chien qui aboie et des étoiles qui tombent des cieux. Blême. Un veau à l'agonie, un bandage au-dessus du sabot, des taches, des trous, la nuit tombe, masquant la patte tremblotante du dernier être vivant. Un croquis du temps, du matériel, des petites mains dans la glace qui le suspendent. Les oiseaux qui ont renoncé à toute curiosité cessent de voler. La danse est terminée. Et le visage de l'amour n'est plus que la jupe ample et les talons dorés de l'hiver. Plan sur une fenêtre ouverte, image de blancheur, de bouleaux émergeant à travers des phrases chuchotées et un train et le vent et le vide. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Sur le chemin de la gare, j'inspecte à nouveau le contenu de mon sac. Un carnet, Simone, sous-vêtements, chaussettes, brosse à dents, une chemise pliée, l'appareil photo, mon stylo et mes lunettes noires. J'entreprends une dernière promenade. et je découvre un parc isolé, dominé par une imposante statue de Neptune. Je gravis des marches en pierre inégale qui débouchent sur ce qui semble être un jardin botanique, avec un certain nombre de palmiers et plusieurs variétés d'arbres. Le ciel d'un vert pâle, l'atmosphère diffuse un flux incessant d'images. Une libellule blanche cueillie dans une boîte à musique, un œuf de Fabergé avec une guillotine miniature à l'intérieur, une paire de patins tournoyant dans le vide. J'écris les arbres, une succession de 8 enchaînés, l'attrait magnétique de l'amour. Ne sachant trop combien de temps a passé, je cesse d'écrire. Je frôle précipitamment le dos courbé de Neptune. Je dévale les marches de pierre. Je me dépêche de rejoindre la gare voisine. Fleur sibérienne. Les fleurs sibériennes sont roses, comme le bandeau d'une fille, une pâle robe de chambre mise en travers d'une fenêtre par laquelle on ne verra plus. Il y a du sang partout, vidé de sa couleur de sang, et le visage de l'amour n'est rien d'autre que la blancheur de l'hiver qui recouvre la colline, le sapin et le pin, le faon et la corne. Tout est soufflé. Et cependant, nous nous languissons. Deux yeux sombres, une tête inclinée, une couverture tombée. Dans le train, je continue à écrire fébrilement, comme ressuscité d'une mer du souvenir. Alain lève les yeux de son livre, il regarde par la vitre. Le temps se contracte. Nous approchons soudain de Paris. Aurélien s'est endormi. Je réalise que les jeunes gens ont l'air beaux quand ils dorment. Et que les vieux, comme moi, ont l'air morts. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, if this fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come undercover. They can't hurt you, no, can't hurt you, no, can't hurt you, no. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. And I do when I'm alone. Love is a ring, the telephone. Love is an angel, this guy has lost. Here in our bed until the morning comes. Come on now, try to understand the way I feel and I are coming. Take my hand, now the sun descend. They can't touch me now, can't touch me now, can't touch me now, ow, 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 ow. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us.
We'll love, we sleep without the fishes that burn and burn. Without, I cannot live. Forgive the yearning burning. I believe it's time to reel, to feel. So touch me now, touch me now, touch me now. Because the night belongs to lover. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Because the night there is two lovers. I believe in the night we trust. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us.
Merci, merci, voilà, c'est incroyable ce qui se passe à Charleville-Mézières. Il y a une poissonnerie, elle s'appelle le bateau ivre, et dans les boulangeries on peut acheter un petit Arthur, c'est très très bon, et la rue René Dommal est une impasse, et il semblerait qu'une grande star, une chanteuse et poétesse américaine aurait racheté la ferme des parents Rimbaud. Mais qu'est-ce qui se passe à Charleville-Mézières ?
Éric Carrel.
Merci.
Même audio, une mémoire sonore.